Vous savez qu'il y a un projet de loi à l'étude, puis ça fait longtemps qu'on en parle de ça, de la réforme de la DPJ, entre autres. Et là, ben, un projet de loi qui s'appelle l'enfant d'abord, qui va être étudié, sans doute adopté par les parlementaires au Québec et qui va modifier un peu la gestion des... Ça va être la réforme de la DPJ. En gros, on veut évidemment que les enfants, la famille soit importante, mais on va penser aux intérêts de l'enfant avant les intérêts de l'enfant dans la famille, entre autres. Et puis, il y a des choses qui vont être modifiées quant à la confidentialité du processus. Il y a plein de choses qu'on va aborder dans ce projet de loi-là pour faciliter, puis probablement pour éviter qu'on ait des situations comme celles qu'on a vues dernièrement, notamment le drame de Granby. Avec nous pour en parler, il est lui-même un ancien enfant, un jeune de centre jeunesse. Il termine actuellement un doctorat. Il est porte-parole de la Fondation des centres jeunesse Laurentides. Il est aussi auteur d'un livre que je vous recommande. Un livre « J'ai profité du système des centres jeunesse à l'université, parcours d'un enfant du modèle québécois ». Fait que si vous voulez avoir vraiment là, le portrait là, d'un enfant du modèle québécois qui passe par des centres jeunesse, mais qui s'en sort bien, vous l'avez en bout de ligne. Il est avec nous, c'est notre invité ce matin. Et son nom, c'est Nicolas Zorn. Bonjour Nicolas.
Bonjour Michel, merci de cette belle introduction.
Merci d'être là. Premièrement, est-ce que ça te réjouit de savoir qu'on va faire une réforme dans le domaine de la DPJ, toi qui travailles déjà au sein d'intervention auprès de la jeunesse?
Bien, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est pas mon emploi, mais c'est sûr que je m'implique toujours pour la cause des jeunes de centre jeunesse. J'ai beaucoup reçu. J'ai l'intention de beaucoup donner en échange. Puis à ce niveau-là, c'est intéressant de voir enfin un gouvernement qui priorise, qui a vraiment écouté les préoccupations qui ont été soulevées des différents intervenants, des jeunes, comme on l'a vu à la commission Laurent, qui agit. C'est à voir si ça va se maintenir dans le temps. Mais oui, c'est très intéressant les éléments qu'on voit dans cette réforme, puis autant des éléments comme d'avoir une direction nationale de la protection de la jeunesse, qui est l'équivalent de notre sous-ministre adjoint, avoir un seul responsable à la table des décisions plutôt que les 17 directeurs régionaux, puis c'est très décentralisé. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'adoption légale des jeunes de la DPJ, ça, c'est intéressant. L'approche spécifique pour les Autochtones, ça, c'est intéressant. Le maintien du placement maximal qui a été gardé, ça aussi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Puis c'est sûr que moi, comme jeune, comme ancien jeune, il y a des choses qui auraient été intéressantes d'avoir à l'époque. Puis je suis bien content que ces avancées-là vont pouvoir être disponibles pour ceux qui vont m'avoir suivi comme jeune.
Bien, dans l'état actuel des choses, il y a comme deux forces qui s'opposent. L'intérêt de l'enfant dans un milieu difficile et ensuite l'intérêt de la famille pour l'enfant. Puis on semble penser, nous autres dans la société, que la DPJ favorise trop souvent la famille et oublie de protéger véritablement l'enfant. Toi qui as été en centre jeunesse, as-tu déjà ressenti ça de la part du système?
Pas vraiment. C'est un balancier. Hein. Je pense qu'on réagit aux nouvelles. Puis malheureusement, c'est des pires mauvaises nouvelles qu'on entend par rapport à la DPJ, comme on l'a vu à Granby. Mais tu sais, on se rappelle lorsqu'il y a eu le documentaire de Paul Arcand, on disait « Mon Dieu, on enferme beaucoup trop les jeunes, ça n'a pas d'allure, faut débarrer les portes ». Quelques années plus tard, il y a l'affaire de proxénétisme à Laval, où des jeunes filles étaient recrutées par des proxénètes. Là, on disait « Mon Dieu, comment ça se fait qu'on débarre les portes puis qu'ils sont pas barrés ?» Je veux dire, c'est un balancier qui passe d'un extrême à un autre. Là, effectivement, c'est bien, on a ajusté. Avant, on plaçait trop l'enfant. Il y a eu des bouts, est-ce qu'on le plaçait plus assez? Donc, le placement était trop court. Fait que l'enfant était barouetté d'une place à une autre. Il y avait des excès. Malheureusement, en privilégiant trop la famille, ben, les cas où est-ce que c'était pas tout à fait le plus approprié, il y a eu des situations où est-ce que ça a mal viré. Mais il y a aussi une raison pour laquelle on privilégiait de favoriser la famille. Puis je pense qu'avec ce projet de loi-là, on trouve un meilleur équilibre, en plus de plusieurs éléments qui sont mentionnés depuis des années, puis qui enfin vont se retrouver comme des décisions.
Si cette loi-là, que tu surveilles de très près, ça avait été appliqué à ton époque en centre jeunesse, qu'est-ce que ça aurait changé à ta vie?
Bien des choses. Moi, j'étais en centre jeunesse de 95 à 2001. En gros, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. J'ai été placé de 11 ans à 18 ans. J'ai été décrocheur deux fois, une fois au secondaire, une fois au cégep. Je suis rendu à l'université.
Wow.
C'est sûr que, pour moi, à plusieurs étapes, j'ai été chanceux. Le système ne m'a pas échappé. Ce que ces réformes-là permettent, c'est d'abord de s'assurer qu'il y ait plus d'éléments positifs de cette nature-là disponibles pour davantage de jeunes, mais aussi de s'assurer que ce ne soit pas juste les plus chanceux qui en bénéficient. Par exemple, moi, j'aurais vraiment bénéficié d'avoir un guichet unique, une place où, en tant qu'ancien jeune, je vais pour avoir accès à l'ensemble des services que l'État offre. Puis il y a beaucoup de services qu'il offre. Par exemple, l'accès à l'aide financière aux études. Moi, j'ai été chanceux. Je l'ai appris via mon ancienne éducatrice avec qui j'ai gardé contact et que elle savait qu'il y avait une exception pour les anciens jeunes des centres jeunesse qui pouvaient faire passer mes petits prêts en grosses bourses. Bien ça, j'ai fait une conférence il y a quelques années. Le ministre Carman était présent d'ailleurs, puis il y a 300 intervenants. J'ai demandé aux gens qui sait que ce programme-là existe. Il y a eu une dizaine de mains qui se sont levées. Fait que tu sais, c'est de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Il va y avoir davantage d'endroits qui s'appellent des aires ouvertes où est-ce que les jeunes peuvent aller pour avoir accès à ces services-là. Le programme de qualification des jeunes qui accompagne les jeunes de 16 à 19 ans, aussi ça va aider. Ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque pour intégrer le marché du travail. Avoir accès à son dossier. Pendant 25 ans, le gouvernement va garder le dossier du jeune, puis le jeune va pouvoir le consulter. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a gardé tous les rapports de psychologues, de psychiatres, et j'ai pu refaire la paix et refaire sens de mon passage en centre jeunesse à cause que j'ai eu accès à ça. Combien de jeunes n'ont jamais eu cette chance-là? Probablement l'immense majorité. Le fait de pouvoir y avoir accès, non pas à 18 ans, mais à 25, 26, 30, 35 ans, lorsque on est prêt à renouer avec notre
tellement,
passé.
Tellement, c'est tellement ça, c'est important. C'est vrai, ça. Wow, c'est incroyable. L'autre élément, je me demande, c'est pas déjà comme ça? Un enfant là, qui est pris dans un dédale de violence, dans ton cas, même à la limite, là, les parents se divorcent, il a perdu la carte un peu, on n'a pas un milieu qui est assez stable pour le maintenir en famille, dans sa famille, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas automatiquement un avocat qui lui est assigné? Là, il y en aura, mais je pensais que c'était déjà comme ça.
Généralement, c'était le cas, mais ça dépend le niveau d'intervention. Je veux dire, un signalement à la DPJ. Des fois, tu sais, ils rencontrent l'enfant, mais il n'y a pas besoin d'une intervention. Ils font juste s'assurer que est-ce que le signalement est véridique. Des fois, c'est pas le cas. On a vu des histoires d'horreur où est-ce que y a eu des signalements qui finalement se sont avérés. C'était pas le cas. Puis là-dessus, ben, les interventions, tu sais, c'est tellement quelque chose de difficile à cerner. Puis je pense que c'est trop facile de juger une fois qu'on a toute l'information. Parce qu'on veut protéger la confidentialité du jeune. On veut protéger le foyer familial, parce que ça bouleverse avoir comme parent, avoir un signalement, puis mon Dieu, ben, je suis pas un batteur de mon enfant, là, mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'inquiétait pour votre enfant. Je veux dire, c'est tellement facile de juger par après lorsqu'on a toute l'information, mais la personne qui intervient dans le foyer, la travailleuse sociale ou le travailleur social, il n'a pas accès à toutes ces informations-là. Il fait du mieux qu'il peut. C'est sûr qu'une chose qui aide beaucoup, c'est quand on le submerge pas de dossiers, puis il y a 30 dossiers à gérer par mois. Je veux dire, ça veut dire moins de temps de qualité pour rencontrer l'ensemble des personnes qui peuvent avoir de l'information, qui connaissent bien le jeune, ses professeurs, son médecin, et ainsi de suite. Bien, c'est sûr que je pense que le projet de loi, il permet de trouver un meilleur équilibre où est-ce qu'on fait des ajustements. C'est quand même pas mal de choses qu'on fait bien au Québec par rapport à ça. Mon père était américain, il avait le même problème que moi. Il s'est pas rendu où est-ce que je me suis rendu pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait même pas une fraction des services auxquels moi j'ai eu accès. Alors, c'est un pas dans la bonne direction. On faisait déjà beaucoup. On va faire encore mieux. Maintenant, il faut juste s'assurer que les ressources soient là. Parce que par ailleurs, on a une pénurie de main-d'œuvre, puis on n'a pas pris soin du système pendant des années. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi à prendre en compte.
Comment ça se fait que tu es brillant comme ça, toi? T'es un enfant qui a été en centre jeunesse. T'es pas supposé avoir eu une possibilité de déboucher puis de réussir dans la vie puis d'être capable de nous expliquer comment ça marche notre société. C'est nous autres qui devrions être obligés de t'expliquer comment ça marche vraiment la société. Je comprends pas, ce matin, là, je suis un peu assommé par ce que j'entends, Nicolas.
Ah, Michel, ils sont parmi nous, ces anciens jeunes-là. Moi, la première chose qu'on me dit généralement, là, quand je partage à quelqu'un que je connais ou que je connais peu, que je suis un ancien jeune de centre jeunesse, généralement, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, ça paraît pas ». Comme si ça se posait être écrit dans mon front. Il y a plein d'anciens jeunes, mon ancien coloc, qui est pompier à Laval, j'ai une ancienne collègue de centre jeunesse, copensionnaire, qui est travailleuse sociale, j'ai même eu quelqu'un dans ma cohorte de mon doctorat qui me dit « Ah, toi aussi, ça fait du centre jeunesse? Ben moi aussi! » Il y en a partout, c'est juste que vous ne savez pas, parce que ça paraît pas. Parce que c'est quelque chose qui est stigmatisé, puis je pense que c'est bien. De plus en plus, on voit quand même plus de coming out, si je peux dire, d'anciens jeunes de la DPJ. Ouais. Puis ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on en parle, ça veut dire qu'on met des visages sur ces histoires-là, puis c'est pas toujours des histoires d'horreur, au contraire, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Les services sociaux font le mieux qu'ils peuvent pour aider ces jeunes-là. C'est jamais facile parce qu'on n'a pas toute l'information sur le coup, puis tu prends des décisions dans un contexte incertain, ce que les parents font au quotidien aussi. Alors, c'est sûr que c'est un système qui est imparfait, mais qui fait déjà beaucoup. Puis à ce niveau-là, ben, c'est bien de pouvoir écouter les jeunes qui sortent de ce milieu-là. Il y aura un comité consultatif d'anciens jeunes de centre jeunesse qui va directement conseiller la Direction nationale de la protection de la jeunesse et par le fait même le système dans son ensemble. Fait que c'est intéressant. On écoute de plus en plus les anciens jeunes. On leur donne de plus en plus de place. Puis par ailleurs, ils ont déjà une place dans notre société. C'est juste qu'on les voit pas trop. Fait que ne prenez pas pour acquis qu'ils n'existent que dans ces histoires d'horreur qu'on voit. Souvent, c'est vos collègues, c'est vos amis, c'est vos voisins. C'est juste que c'est pas écrit sur notre front.
J'ai des frissons. Bravo. Tu as écrit un livre, ça s'appelle « J'ai profité du système des centres jeunesse à l'université, parcours d'un enfant du modèle québécois ». On retrouve ta vie là-dedans?
Pas mal, oui. Ma vie, puis aussi, c'est à moitié une autobiographie, à moitié un essai sur le modèle québécois. Oui, les centres jeunesse, mais également les autres particularités de ce qui fait le Québec une société distincte et qui m'ont aidé puis qui ont fait une différence, notamment par rapport à mon père. Ben, c'est une histoire qui est positive au final.
Vraiment une rencontre enrichissante ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je te promets que ce n'est pas la dernière fois. On garde contact. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne chance avec le livre, mais surtout, bonne chance à tous les jeunes qui passent par les centres jeunesse, les interventions de la DPJ. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait moins d'histoires d'horreur puis plus d'histoires à la Nicolas Zorn.
Merci beaucoup, Michel.
Bye-bye.
Au plaisir.
Bye-bye. Un ancien jeune de centre jeunesse. M'a dit, comme il dit, on n'aurait pas cru ça, hein? À l'écouter parler, il termine un doctorat, il est porte-parole de la Fondation des centres jeunesse Laurentide. Bravo. Son livre, il est disponible. Vous pouvez évidemment vous le procurer. « J'ai profité du système des centres jeunesse à l'université, parcours d'un enfant du modèle québécois ». Les profits seront remis à la Fondation des centres jeunesse des Laurentides. Et pour plus de détails, vous pouvez faire Nicolas, N-I-C-O-L-A-S, Zorn, Zorn.com. La réforme, il y a plein de positifs là-dedans. Entre autres, après 18 ans, tu es en centre jeunesse, tu fais pas ton pack-sac, puis on te sacre à la rue, puis on te dit bonne chance. On va avoir un suivi jusqu'à l'âge de 25 ans. Très important.